dans Bouchard en parle, voici Pierre-Yves McSween.
Pierre-Yves, bonjour.
Salut.
Bon, ça commence à devenir un peu le jour de la marmotte, là. C'est inquiétant, jour après jour. Hier, c'était Reitmans. Après ça, on avait parlé de Sale. Puis là, on est rendu à... Jack and Jones. Là, on en a un par jour.
Jack and Jones.
Oui, Jack and Jones.
Il est là pendant 3-4 ans. Mais...
Et tu l'as dit, l'affaire de Jack and Jones, c'est que ça fait partie d'un groupe, oui, best-seller, mais surtout, ça vient où? Ça vient dans un centre commercial. Et c'est ça le problème de Jack and Jones par rapport à d'autres lignes. C'est souvent dans un centre commercial. Alors, ils nous annoncent que, bon, on se protège des créanciers. Bon, évidemment, c'est un processus normal présentement. Si vous protégez de vos créanciers, c'est pas que vous faites faillite. C'est que vous mettez un stop à l'hémorragie et vous regardez votre modèle d'affaires et vous prenez des décisions. Là, t'as Jack and Jones puis Vero Moda qui est dans le même groupe, best-seller, et qui dit, OK, on va prendre une pause, notre division canadienne, on va la protéger. Mais ils sont dans des carrefours achalandés, là. Laval, 1030, Place Laurier à Québec, Galerie d'Anjou. Et qu'est-ce que tu veux? Ça va avec l'ambiance du centre commercial, l'affichage, la vibe, si tu veux, du commerce est faite pour être dans un centre commercial. Et on n'a pas de surprise vraiment parce que c'est le genre de commerce qui est ni dans le très haut de gamme, qui est pas dans le H&M très bas, mais tu sais, qui se garde dans les prix. Exemple, Vero Moda, là, on est dans des jeans de 50 à 95 $, puis chez Jack and Jones, on est plus dans le 85 à 135 $. Donc, pas de luxe, mais dans la classe où les gens achètent pas mal, mais beaucoup de difficultés à différencier. Et c'est un peu ça le problème des marques qui se fient sur l'achalandage des centres commerciaux. Ils s'effondrent. Parce que leur valeur était beaucoup liée au fait qu'il y avait de la visibilité là-dedans.
Toi, tu penses que c'était pas un genre de commerce qu'on appelle souvent de destination, là. Les gens font pas un détour, mais tu passes en avant de la boutique Jack and Jones. Ça m'est déjà arrivé, moi, d'acheter là. Tu regardes ça. Ah, pas trop cher. C'est quand même beau. Mais tu sais, tu pars pas de chez vous nécessairement en disant, hey, moi, je vais faire un détour. Je vais absolument, c'est ma marque. Je m'identifie à ça. C'est comme d'autres produits, là.
Fait que ça, c'est un parallèle avec les autres, là. Tu sais, les ordinateurs, tu sais. Ouais. Par exemple, le monde va payer un surplus du consommateur pour un produit Apple.
Exactement.
Ils vont payer un surplus, ils vont faire un effort supplémentaire. Jack and Jones n'a pas ça. Ouais. On est dans un adapt or die présentement, puis avec les beaux commerciaux qui sont des coûts fixes épouvantables, ben là, le centre commercial a même perdu de sa valeur. La guenille, c'est du fast fashion pas mal de plus en plus. Donc, avant, on avait 3-4 saisons. Maintenant, des compagnies comme Frank & Oak ont instauré un look mensuel. Et là, pendant 3 mois, on n'a pas liquidé les stocks. On a-tu fait une commande? On a-tu préparé la prochaine gamme? On sait pas. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les marges. Je te parlais hier de Canadian Tire pour faire le parallèle avec Cell. Là, je vais te parler d'H&M. H&M, qui est un groupe qui fonctionne quand même bien. Une stratégie quand même basée un peu plus sur le volume et le côté moins de marge, mais la marge de H&M est de 5-6%. Donc, si on est là-dedans dans H&M, peut-être que chez Jack and Jones, parce qu'on n'est pas tout à fait dans le même segment de marché, on voudrait viser un peu plus, mais on n'y arrive pas, on fait moins. Et je suis allé voir pour le bien-être de ma connaissance, les centres commerciaux canadiens qui ont les meilleures ventes annuelles au pied carré.
Hein, ouais, ça m'intéresse.
Ah, oui, écoute.
Ouais, c'est qui?
Et c'est le Yorkdale Shopping Center à Toronto. Et après ça, là,
est-ce que c'est le super gros à Toronto, là?
Écoute, je peux même pas te dire, je suis pas un fan de centres commerciaux. Je peux te dire, par exemple, qu'il
j'en
génère...
J'en ai vu un, moi, à Toronto, il est immense.
1905$ de vente, le pied carré.
Hey boy, OK.
OK? Et là, dans la liste, si tu regardes comme il faut, c'est Toronto, Vancouver, Toronto, Edmonton, Mississauga, Calgary. Donc, dans les 30, là, il y a Place Sainte-Foy à Québec au 25e rang. Quand même. Et
le centre... Le seul, que... Es-tu en train de me dire que dans les 30 centres d'achat les plus rentables au Canada, il y en a juste un au Québec?
Ben, c'est parce qu'il y avait... Il y a un petit alignée en bas, un petit STS qui dit... ouais, là, à cause des rénaux au centre Étune puis la fusion avec les ailes de la mode, ils seraient dans le palmarès si on avait pu les regrouper et pas tenir compte qu'ils étaient en rénovation. Et donc, tu comprends que ils vont se retrouver, le centre Étune, il va se retrouver là, tu sais, probablement. Mais tu vois quand même que c'est... Les prix là pour les 30 premiers, c'est entre 767$ en 2008 jusqu'à 1905$ le pied carré de vente annuelle. Et quand tu vas dans les 10 centres commerciaux les plus achalandés au Canada,
ouais.
Là, on parle d'achalandage.
OK, là, on parle pas là, de ceux les plus rentables en matière de pied carré. Le nombre de monde qui rentre. Ah, là, on doit être bon là-dedans, d'après moi.
Ben, écoute, le CF Toronto Eaton Center, 53,7 millions vient en premier.
OK.
Aïe, aïe, ça veut dire qu'il y a du monde qui passe. Donc, la promesse de ton centre commercial... C'est qu'il y a du monde qui passe, tu comprends?
Mais dans ce cas-ci, à Toronto, COVID, là, j'ai hâte de voir Québec, là.
Écoute, dans les 10, je le vois pas. Il y a le Centre Eaton qui est 22,3 millions. Mais est-ce qu'on est juste 10? On n'est pas dans 30, tu comprends? On est dans 10.
Okay, il y en a moins, là. Ouais.
Donc, on est dans le nombre en nombre. Puis c'est pas parce que tu passes dedans. Tu sais, il faut faire attention. Gavez ça. Le Centre Eaton, c'est à Chalandais. Mais pour ceux qui sont déjà venus à Montréal, dans le Centre Eaton, c'est aussi un corridor pour passer de Sainte-Catherine au métro.
Exact. Ouais. Et ça fait partie de ce qu'on appelle le Montréal souterrain. Là.
Exact. Donc, il faut faire attention entre l'achalandage et les dollars dépensés.
Donc, et non seulement c'est tough dans les centres d'achat, mais tu es en train de nous dire qu'au Québec, c'était déjà un peu plus tough pour les centres d'achat.
Ben,
en tout cas, on ne se classait pas dans les meilleurs et les plus rentables ou les plus achalandés.
On va se comprendre. Ah, tu vois, je n'ai manqué un. Je suis désolé. Il y avait quand même le Carrefour Laval en 21e position quand même.
OK.
T'sais, qui était quand même là aussi. Puis Place Sainte-Foy, à Québec. Puis là, OK, en fin de parcours, là, tu avais le Fairview Pointe-Claire au 39e rang. Tu vois, qui est pas dans le 30, mais qui nous le montre quand même pour dire il est où dans la gang. T'sais. Donc, tu vois un peu. On est là, on est dans la promesse de vente. Ce que je voulais souligner, c'était la promesse de vente, la promesse de rentabiliser. Donc là, tu as toutes les boutiques comme Jack & Jones qui étaient dans un endroit qui promettait de l'achalandage, qui promettait de la vente, et là, la promesse est brisée.
Mais ils vont peut-être, cependant, là où j'essaie de voir toujours un peu d'optimisme. Le gars de Place Sainte-Foy a donné une entrevue l'autre jour, puis il a dit qu'ils ont vraiment donné des rabais de congés, de paiement très important,
oui,
qui allait en donner encore. Puis il faut savoir que les centres d'achat, dans certains cas, appartiennent à des compagnies, je pense à Ivanhoé Cambridge, c'est la caisse de dépôt, là.
Fait qu'ils ont Cominard,
les moyens. Cominard ont les moyens. L'autre, c'est le fonds de pension là, des retraités ontariens, le Homers, là, qui a ça. Les galeries de la capitale, par exemple, là, ça appartient à Homers. C'est un peu comme une genre de caisse de dépôt. C'est énorme. Fait qu'ils ont peut-être les moyens pour soutenir leurs commerçants. C'est
attention.
Ça que je veux dire.
Ils ont les moyens, mais ils ont des obligations de rendement.
Ah,
tu peux-tu aller dire à tes déposants, « Hey, sais-tu quoi, là? Écoute, on a fait des rabais, on n'a pas étiré l'élastique au maximum. » Puis c'est ça l'affaire. C'est qu'il faut que tu sois capable de juger. Tu sais, par exemple, si t'égorges tous tes locataires, c'est un mauvais pari. Parce qu'il y a-tu quelque chose de pire qu'un centre commercial avec un local sur deux de vide? C'est la mort. Parce que pour le client... Ce qui fait la valeur d'un centre commercial, c'est d'entrer puis sentir l'abondance, sentir le côté qu'il y a de l'offre
nous,
partout.
Nous, on a quand même déjà eu, et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est déjà annoncé, puis le financement est là. Tu sais, à Québec, la Galerie de la Capitale, là, je sais pas si t'es allé récemment, mais ça a été rénové à coût de 200-300 millions. Place Sainte-Foy, ça a été rénové, ça vient juste d'être terminé. Énorme investissement. Et Place Fleur-de-Lys, c'est pas commencé, mais l'argent est là, le financement, le projet est accepté, ça va être énorme. Donc, si... Tout ça, ça avait pas eu lieu, puis la pandémie était arrivée. Moi, je pense qu'on reste à Québec, là. Peut-être que là, les retraités fonctionnaires ontariens ou la caisse de dépôt, ou peut-être que les frères Trudel, à Fleur de Lys, auraient peut-être dit avant la pandémie, on y va-tu, on y va-tu pas. Mais là, c'est réglé. C'est réglé. Dans certains cas, c'est terminé. C'est des investissements majeurs.
Fait que tu sais pourquoi ils investissent?
Parce
qu'ils n'ont pas le choix.
Ouais.
Ils n'ont pas le choix. Faut que tu attires ton client avec quelque chose, tu sais. Puis, soit dans certains centres commerciaux à Montréal, c'est comme Place Versailles, écoute, t'as un feeling d'une autre époque dans certains secteurs.
Ouais, ben là, nous autres, c'est pas mal tout neuf, là. Ah, il reste un peu de temps. Je veux que tu me parles de Donald Trump et de Snapchat, ça m'intrigue. C'est quoi le lien?
Ben oui,
parce que lui, c'est Twitter, lui, Pierre-Yves, Donald Trump.
Mais Snapchat fait le pari que, tu sais, t'as Facebook, il dit, nous, on va rester dans la position de la liberté d'expression.
Ouais.
Et comme Facebook possède Instagram, donc il veut comme le grand méchant qui a tout. Et donc, pour les plus petits, comme Twitter ou Snapchat, bien que Twitter, c'est assez gros quand même, la position idéaliste est un côté marketing intéressant.
Oh.
Alors, Snapchat a annoncé qu'il ferait plus la promotion des messages du président américain.
Hein?
Même si ceci reste visible, il en fera plus comme la promotion. Dans le fond, on a une vision un petit peu moins que neutre, tu comprends? Pourquoi on fait ça? Mais c'est un peu comme Kaepernick puis Nike. Tu te souviens que quand Nike a fait une publicité avec Kaepernick, le gars qui avait mis le genou à terre pendant l'hymne national, puis il avait fait une publicité qui disait « Believe in something, sacrificing. » Je suis bien fatigué avec mon anglais aujourd'hui. Excuse-moi, mon Sylvain.
Ça
tu vas le traduire en français.
Oh, oui,
crois en quelque chose, même si ça veut dire de sacrifier tout. De tout sacrifier. Et donc, Snapchat dit « Écoute, on va peut-être faire ça. » dans le fond, si on prend cette position-là, les jeunes qui sont notre grande valeur marchande...
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là. Les vieux républicains sont pas vraiment sur Snapchat. Fait qu'ils font le calcul qu'anyway, c'est pas leur public. Ils auront pas de perte vraiment.
Et quand tu regardes l'action, Ouais. Est à 20$ environ, puis est en hausse de 20% depuis le début de l'année, a vécu la baisse en V puis la remontée. Et donc, Snap vit très bien là au niveau de la COVID, au niveau boursier.
Mais moi, là, parce que... je sais que tu analyses ça de, avec le spectre économique, mais côté politique, je trouve quand même ça... Non, mais je suis pas un fan de Trump en passant, mais je trouve ça hâte qu'une compagnie dise... Écoute, moi, le président américain, je ne relais plus ses messages.
Attention! Attention, ils sont visibles quand même, mais ils en font plus la promotion. Puis ne plus en faire la promotion est un mot large. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'algorithme?
Wow, okay, ouais, c'est vrai.
Mais Sylvain, 306 millions de pertes pour Snapchat pour les trois mois au 31 mars. Il faut pas que tu oublies que l'élection, c'est pas dans quatre ans. Ça, c'est l'autre pari intéressant.
L'élection, c'est là. Now.
Exact. Donc, Snap peut dire, c'est pas un grand guess. Tandis que Facebook, beaucoup plus assis sur ses lauriers, sans faire de jeu de mots avec Place Laurier, fait un revenu trimestriel de 17,7 milliards américains. Oh. Et donc, tu veux pas perdre tes acquis, tu comprends, tu fais de l'argent. C'est là la différence. Il y en a un qu'il faut qu'il améliore sa position et l'autre qu'il faut qu'il maintienne ses acquis. C'est pas la même
game. Ils sont pas dans le même public, là.
Je vais aller reprendre mon anglais, ça va pas bien.
On se parle demain. Salut. Salut, Pierre. 16 ans, c'est pas moi qui vais y faire de reproches et de leçons là-dessus. Vous le savez sur l'anglais.